directement à la salle du Parlement à Delémont pour rejoindre Émilie Moumentaler.
Oui, bonjour. La traditionnelle heure des questions orales a commencé ici au Parlement. 16 députés ont déposé une question. Ce soir, non, c'est pour une question orale. La première est posée par Yvan Godat, député des Verts du Bémont.
La conclusion suivante. Il faut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. La Suisse s'est engagée à Paris à réduire ses émissions de 50% d'ici à 2030. En 2015, le Conseil fédéral s'était engagé sur un objectif de réduction des émissions de 70 à 85% à l'horizon 2050. La RTS et le Temps nous apprenaient le 8 octobre dernier que l'Office fédéral de l'environnement s'était saisi des nouvelles données du GIEC et qu'il allait réexaminer les objectifs de la Suisse en matière de réduction des émissions de CO2. Le Jura s'est également donné des objectifs, notamment dans la conception cantonale de l'énergie adoptée en 2015, qui se révèle malheureusement insuffisant à la lecture des conclusions de ce rapport. Ma question est la suivante. Le gouvernement jurassien entend-il lui aussi réexaminer ses objectifs climatiques à la lumière de ces nouveaux éléments? Je remercie par avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole au président du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
Voilà, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Effectivement, monsieur le député, votre question soulève un sujet d'actualité et pour lequel nous constatons actuellement également des faits météorologiques qui peut-être sont aussi liés au réchauffement climatique. Et par rapport à cela, le gouvernement reste très attentif, bien évidemment, à la situation. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre la loi sur l'énergie et son ordonnance qui vient d'être bien évidemment publiée, vous l'avez certainement constaté, et qui sera probablement suivi d'évolution dans les années à venir en fonction des différentes orientations que prendront la Confédération et les différentes conférences intercantonales. Peut-être un sujet d'actualité en lien avec l'émission de CO2. La Confédération s'était engagée à la COP 21 en 2015 à Paris, ainsi qu'à la COP 23 à Bonn en 2017, à donc réduire les émissions de CO2 de la Suisse. Et nous constatons en parallèle que la Confédération n'est pas toujours très cohérente, puisque vous l'avez certainement vu dans les médias à partir de hier. Nous avons depuis le printemps de cette année eu des négociations très difficiles avec CFF Cargo, qui est une entreprise donc de la Confédération, entièrement en main de la Confédération, et qui avait comme objectif de réduire le transport de marchandises par rail. Donc c'était une décision qui allait à l'encontre totalement des options prises par la Confédération au niveau des COP 21 et COP 23. Nous avons donc eu 6 mois de négociations très, très intenses avec CFF Cargo, avec les partenaires que sont également les CJ et bien évidemment le personnel du Coteau du Jura et les élus aux chambres fédérales avec Claude Hesch. Et nous avons obtenu un compromis satisfaisant qui permet de maintenir la plupart du trafic marchandises sur rail comme actuellement. Mais on a mis en place des actions qui permettent de contenir,
voilà, on a retrouvé
ou de maîtriser
la
des situations dramatiques ou difficiles comme actuellement.
La salle
et
du Parlement.
Ceci donc me conforte dans les actions qui ont été prises par le passé, que nous prenons encore actuellement et qui vont dans le bon sens. Tout en, bien évidemment, rappelant encore une fois, comme je l'ai dit en préambule, que je suis, ou nous sommes étonnés.
Monsieur le ministre, quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Michel Chauffin est satisfait. Pour la question orale suivante, je cède la parole à monsieur le député Pierre Parietti.
Pierre Parietti, député PLR de Porrentruy.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, deux programmes immobiliers très concurrentiels sont prévisibles à terme entre la République en canton du Jura et la caisse de pension de cette même République sur des terrains à Porrentruy. Les dix terrains présentent des caractéristiques de localisation très différentes, mais surtout des conditions économiques pour leur valorisation extrêmement disparates. Premier volet, la République et canton du Jura devraient se voir remis très prochainement un terrain gratuitement suite à la donation effectuée par les époux Robert et Suzanne Giavarini dans leur succession exceptionnelle portant sur plus de 2 hectares de terrain constructible. Deuxième volet, la caisse de pension du canton qui a annoncé projeter un investissement au centre de Porrentruy avec un projet impliquant également l'hôpital du Jura et les planchers Tessa, home pour personnes âgées de Porrentruy, mais ce projet-là via le rachat annoncé du site de l'ancienne Migros. Ces deux disparités sont évidentes et se retrouveront inévitablement dans les tarifs de location projetés. Dès lors, ma question, quelle concertation le gouvernement a-t-il envisagé, sachant qu'il s'agit de deux dossiers de collectivités très interdépendantes avec une option tout à fait similaire, à savoir l'accueil, l'hébergement et les services en faveur de personnes âgées et ou à mobilité réduite, à savoir réalisation d'un home, respectivement d'appartements adaptés ou protégés. Et sans oublier, bien évidemment, que Porrentruy est l'objet de certaines démarches privées pour des réalisations tout à fait similaires. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à monsieur le ministre Jacques Guerbert.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, pour l'ensemble de ces types de dossiers au niveau cantonal, c'est toujours le premier dossier complet qui satisfait aux exigences légales qui aura la priorité. Il n'y a pas de réservation possible aussi longtemps, justement, que le dossier n'est pas complet. Et actuellement, aucun dossier complet n'a été déposé auprès du service de la santé, bien que les deux projets que vous avez mentionnés sont à des stades de développement différents. Une chose est par contre claire concernant les deux projets que vous avez mentionnés, c'est qu'un projet d'envergure a sa place en ville de Porrentruy. Une autre chose également qui est claire, c'est qu'il n'y a pas de place pour deux projets d'envergure sur Porrentruy. Il n'appartient cependant pas à l'État de jouer le rôle d'arbitrage. Par contre, nous essayons évidemment de coordonner les projets, mais tout ceci dans un cadre qui garantisse la libre concurrence.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Pierre Pariatti est satisfait. Pour la quatrième question orale, j'invite monsieur le député Jean Leuenberger à la tribune.
Jean Leuenberger, député UDC de Montpellier.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les Ministres, la peste porcine africaine est une maladie virale contagieuse affectant les porcs et les sangliers, mais n'est pas contagieuse pour l'homme. Ce virus peut se transmettre facilement d'un animal à l'autre, soit par contact étroit entre individus, soit par du matériel contaminé ou via des restes alimentaires porteurs du virus et abandonnés par l'homme. Depuis mi-septembre, 79 sangliers infectés par la peste porcine africaine ont été trouvés au sud de la Belgique. Une zone de 63 000 hectares est désormais bouclée. La chasse, l'exploitation forestière et les promenades en forêt y sont strictement interdites dans cette zone. Les dernières contaminations en Europe pourraient bien être la conséquence d'introduction de restes de denrées alimentaires abandonnées par des voyageurs en provenance de zones infectées. Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement ou vaccin possible contre cette maladie. D'où ma question. Le gouvernement va-t-il prendre des mesures spéciales contre cette épidémie? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Jacques Guerbert.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, le gouvernement, monsieur le député, prend très au sérieux la percée de cette épidémie classée hautement contagieuse en Europe, ce malgré le fait qu'elle ne soit pas, vous l'avez dit, contagieuse pour l'homme. Un premier cas a été découvert en Belgique et depuis, de nouveaux cas sont apparus, que ce soit en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, en Moldavie, en Russie, même en Chine. Cette répartition géographique démontre la capacité de ce virus de se répandre extrêmement rapidement en occasionnant évidemment des pertes et des répercussions économiques dans les différentes régions et pays touchés. Les différentes mesures qui sont prises ne sont pas des mesures nécessairement uniquement au niveau cantonal, ce sont également des mesures fédérales. Donc nous travaillons avec l'Office l'Office fédéral en charge de ces questions. Les mesures qui sont déjà prises aujourd'hui, on peut citer par exemple tout ce qui est au niveau des processus d'importation et d'exportation qui sont devenus beaucoup plus restrictifs et contrôlés au niveau des ports. Il y a également une information et une sensibilisation des voyageurs en provenance des pays qui sont touchés par ces maladies. Il y a également une information et une sensibilisation aux chasseurs par rapport aux lésions typiques de la maladie cette information est dans le manuel qui a été édité en 2018 pour que les chasseurs puissent nous informer s'ils découvrent cette maladie. Il y a également une formation et une sensibilisation des contrôleurs des viandes, des vétérinaires praticiens, des étudiants en médecine et des vétérinaires actifs dans les services publics, justement à ces symptômes pour détecter cette peste arrivait sur notre territoire. Nous avons, au niveau cantonal, essayé d'augmenter le tir de sangliers. Et puis, nous avons, évidemment, un plan d'urgence qui est prêt en cas d'épizootie déclarée. Les mesures qui sont encore à prendre, c'est de mieux cibler les tirs de sangliers d'un certain âge, c'est de mettre en place de nouvelles mesures de distancement et de protection des porcheries qui visent justement à limiter le contact entre les sangliers et les porcs en détention domestique par des barrières, des ventilations, etc. On a également une réévaluation des mesures de protection et de distancement déjà existants pour voir si, lorsque ces mesures sont en place, elles sont suffisantes. J'ai également demandé la semaine passée qu'une coordination soit mise sur pied entre les trois services concernés par la thématique, c'est-à-dire l'Office de l'Environnement, l'Office de l'Agriculture et le SCAV, qui doit également aujourd'hui, donc cette coordination doit prendre en compte aujourd'hui, en plus des dégâts aux agriculteurs qui régulièrement également refont surface dans les questions orales, doit également prendre en compte le contrôle des populations qui sont une source et surtout un vecteur important de contamination. Donc vous le voyez, monsieur le député, nous sommes à l'action, mais nous ne sommes pas dans une science exacte et nous espérons être exempt de cette maladie encore longtemps et nous espérons que ces mesures suffiront.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Jean Leuenberger est satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite monsieur le député Nicolas Gérard à la tribune.
Le sujet de la question a été traité.
D'accord, la question a déjà été traitée. Nous pouvons donc passer à la sixième question. Monsieur le député Jean-Pierre Michler, vous avez la parole.
Jean-Pierre Michler, député UDC de Develier, qui monte à la tribune pour la cinquième question orale.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les Ministres, chers collègues, chaque année, avec l'arrivée de l'automne, la Confédération publie les nouveaux tarifs des primes maladies. Une fois de plus, la hausse des primes dans le canton du Jura sera supérieure à celle de la manière de la moyenne nationale. Pour les contribuables jurassiens qui payent entièrement leurs primes d'assurance, ceux-ci ne peuvent pas en déduire la totalité sur la feuille d'impôt. Les primes d'assurance les moins chères coûtent largement plus de 3 000 francs par personne par année, alors que dans la rubrique déduction objective sur la feuille d'impôt, le contribuable ne peut déduire que 2 550 francs. Ce système est injuste et pénalise les citoyens qui payent totalement leurs primes maladie. Celle-ci devrait être déductible intégralement. D'où ma question au gouvernement. Ne serait-il pas le moment d'adapter la déduction fiscale au moins à l'équivalent de la prime la moins chère dans le canton? Je vous remercie de la réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Charles Juillard.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, il faut rappeler que les déductions pour primes de caisse maladie sont considérées aux yeux de la loi comme des déductions à caractère social sur lesquelles les cantons ont en effet une marge de manœuvre. Mais à aucun moment la loi ne dit que celle-ci doit être compensée intégralement, mais qu'il y a une marge de manœuvre, justement une appréciation qui est laissée aux cantons. Et à ma connaissance, très peu de cantons ont permis une déduction totale des primes de caisse maladie, sachant que dans la même rubrique, il n'y a pas que les caisses maladie, mais il y a aussi d'autres primes d'assurance auxquelles peuvent souscrire les citoyens. Cela dit, le gouvernement jurassien est parfaitement conscient de ce problème. D'ailleurs, le Parlement a accepté un certain nombre d'interventions à ce sujet. Et pour tenir compte de ces différents éléments, mais ça ne vous aura certainement pas échappé, le gouvernement, vendredi passé, a présenté son projet de réforme fiscale en lien avec les entreprises, avec notamment un volet sur les personnes physiques. Et typiquement, la proposition que vous faites est en partie tenue en compte, puisque le gouvernement propose d'augmenter la déduction possible pour les primes de caisse maladie selon des montants qui sont indiqués. Ce processus est en cours de consultation actuellement. Nous attendons les retours de consultation pour ensuite formuler à l'intention du Parlement un message définitif. Donc, monsieur le député, vous voyez que le gouvernement n'est pas insensible à ces questions et qu'il appartiendra en finalité à ce Parlement de fixer le niveau de cette déduction, sachant que une augmentation de 100 francs, par exemple, par contribuable pour cette déduction coûte terriblement cher aux collectivités publiques, mais c'est un effort que nous pensons pouvoir faire un bout, en tout cas, raison pour laquelle nous n'allons pas jusqu'à déduire complètement, ou possibilité de déduire complètement ces coûts. Sachant aussi que le gouvernement jurassien a d'ailleurs hier mis la dernière main à la réduction des subsides qui sont alloués aux citoyens jurassiens et que là nous avons étendu en application du contre-projet qui était accepté par le peuple une aide supplémentaire aux familles qui en avaient particulièrement besoin, de sorte qu'on tient aussi compte à travers de ces différents éléments de la charge importante que relève cette prime de caisse maladie dans les budgets des ménages. Mais nous attendons maintenant la réponse à la consultation à laquelle vous ne manquerez pas de répondre. D'ailleurs, je m'étonne que le groupe UDC qui avait été invité à la table ronde était absent de cette table ronde. Il aurait déjà pu à ce moment-là formuler un certain nombre de propositions. Mais voilà, nous attendrons donc, comme je l'ai dit, le résultat de la consultation et le débat qu'il y aura ici au Parlement pour régler cet aspect.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Jean-Pierre Michler n'est pas satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite madame la députée Muriel Maki-Berda à la tribune.
Muriel Maki-Berda, députée PS de Delémont.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, c'est dans le souci que notre canton pratique une politique de prévention en matière d'alcool cohérente que je m'interroge sur la légalité de la bière en libre-service apparue dans un pub delémontain. L'installation donc consiste à placer des tireuses à bière sur des tables hautes pour que le client puisse se servir jusqu'à ce que son quota payé soit épuisé. Il dispose donc d'un accès illimité à la bière tant que le montant prépayé est suffisant. Les arguments marketing donnés aux tenanciers pour justifier ces installations sont extraordinaires. Elles valorisent le consommateur dans son autonomie, il consomme à bien plaire sans déranger le serveur, elles donnent une nouvelle dimension à l'établissement et permettent de toucher une clientèle de groupe. Elles fidélisent les clients si l'accès à l'alcool se fait par carte de paiement, car les données d'accès peuvent être exploitées pour offrir des rabais de fidélité. Elles garantissent un retour rapide sur investissement. Certains cantons, comme Vaud et Fribourg, ont décidé d'interdire ces installations car elles s'apparentent à des distributeurs automatiques sans possibilité de contrôler l'état d'ébriété d'une personne et qu'elles sont contraires avec leur politique de prévention. À noter que Addiction Suisse est totalement contre ce système car une grande quantité d'alcool est mise à disposition en une seule fois et que le contrôle de la consommation individuelle est impossible. Dans le cas qui nous préoccupe dans la capitale jurassienne, c'est aussi la clientèle très jeune qui fréquente cet établissement qui pose problème, en sachant que la bière représente plus de la moitié de l'alcool consommé par les jeunes de 15 à 24 ans. Avant de poser ma question au gouvernement, je tenais à rappeler qu'en 2014, après une question orale, le ministre de l'économie de l'époque devait se rendre par lui-même avec la commission de l'économie pour constater cette pratique. J'imagine que vu la composition de la commission de l'économie en 2014, ils ont dû apprécier ce concept, car je suis sans nouvelles de l'évolution du dossier. Je repose donc ma question. Le gouvernement a-t-il l'intention de mener une politique de prévention cohérente en interdisant ce type de distribution d'alcool en libre-service sur son territoire, comme l'ont fait certains cantons ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, vous l'avez dit, Madame la députée, vous aviez déjà posé une question similaire en 2014. Pour autant qu'il s'agisse du même système Ce dont, évidemment, je n'ai pas pu contrôler entre hier soir et ce matin, et comparer les systèmes, les constats, effectivement, de la commission de l'économie, qui s'était rendue à l'époque en mission spéciale dans le bar incriminé, avait fait les constats suivants aux tables de bière. Le client doit demander l'ouverture de la consommation, donc ce n'est pas libre accès à la consommation de bière. La quantité consommée peut être contrôlée continuellement par le personnel de l'établissement. L'appareil de la table peut être fermé à tout moment si le patron du bar ou les serveurs voient qu'il y a un problème. Le client peut consommer exactement la quantité qu'il souhaite consommer, au centilitre près, hein, c'est selon le rapport de la commission d'économie, vénérable commission d'économie. La table est fermée s'il n'y a pas au moins un adulte lorsqu'il y a des clients de moins de 17 ans assis à la table. Et les tables à bière de l'établissement ne semblent pas poser davantage de problèmes que les modes entre guillemets conventionnels et traditionnels de consommation de bière dans ces établissements. Madame la députée, le gouvernement actuellement n'a pas été saisi d'une situation à problème telle qu'elle pourrait conduire à une interdiction. À ce stade, les dispositions prévues par la loi sur les auberges semblent suffisantes. Et j'aimerais ici profiter de la tribune pour les rappeler. Tout d'abord, les tenanciers doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et les appareils qui peuvent mettre en danger justement la santé publique sont interdits. Par conséquent, si les tables à bière ont des conséquences incontrôlables pour le tenancier, elles pourraient être interdites, elles devraient même être interdites par premièrement le tenancier et ensuite, bien sûr, si ces derniers ne font pas le travail, par l'État. Le tenancier ne peut pas délivrer des boissons alcooliques au moins de 16 ans. Donc je m'étonne lorsque vous parlez de jeunes de 15 ans qui consomment de l'alcool dans les établissements publics. Je serais tenté de me poser la question, mais que fait la police locale pour contrôler si les tenanciers de ces restaurants, de ces bars, respectent réellement la législation? Au cas échéant, c'est également c'est le rôle de la police locale de dénoncer, de signaler ces cas qui ne respectent pas ce cadre légal. Pour les tables à bière, les mesures de prévention habituelles s'appliquent par analogie. Le restaurateur et son personnel doivent veiller à l'âge, encore une fois, des consommateurs et peuvent être punis de l'amende, voire de l'emprisonnement en cas d'infraction. Mais encore une fois, Madame la députée, À la connaissance du gouvernement, il ne semble pas, à ce stade, que les tables à bière posent plus de problèmes que le mode de consommation traditionnel, mais nous allons encore nous renseigner plus en détail sur le cas que vous avez mentionné et reprendre cette thématique si cette dernière devait être justement problématique.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Muriel Maki-Verda n'est pas satisfaite. Pour la question orale suivante, je donne la parole à monsieur le député Raoul Yagui.
Raoul Yagui, député indépendant de Basse-Cour.
Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, chers collègues, j'ai déposé récemment une question écrite qui finalement a été jugée pas possible de l'accepter comme telle par le bureau, parce qu'il manquait un développement. La question ne comportait qu'une question dans le titre, et j'ai décidé donc d'en faire une question orale. La question était celle-ci. À quand la baisse fiscale, pourtant acceptée il y a un certain temps par le peuple? Merci de votre réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre, Charles Juillard.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Yegui, je ne sais pas de quelle baisse fiscale vous faites allusion, parce que Celle de Jura Pays Ouvert, parce que c'est la dernière qui avait été votée par le peuple, a été mise en œuvre dès 2005 avec d'un coup une baisse de 5 points, puis reprise en 2009 jusqu'en 2014 de 1% par année, ça fait 6 points. Suspendue en 2015 mais réintroduite en 2016, suspendue en 2017 mais réintroduite en 2018, et il est proposé au Parlement effectivement de la suspendre encore une fois pour la décaler jusqu'en 2024. Donc il ne reste plus que 4 points sur les 12 années qu'il était prévu à cette baisse pour être mise en œuvre. Donc je m'étonne de votre question parce que finalement c'est plus des 2/3 de cette baisse qui a déjà été mise en œuvre et qui a profité aux Jurassiennes et aux Jurassiens. Il reste maintenant encore ces 4 années de baisse qui devront être mises en œuvre, comme on vous l'a dit. Le Parlement a à chaque fois eu l'occasion de se prononcer sur la suspension ou plutôt le report d'une année de cette baisse fiscale. Donc elle est en route, elle est même bientôt totalement consommée.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Raoul Yegui n'est pas satisfait. Pour la question orale suivante, je donne la parole à Madame la députée Danielle Chariat.
C'est à présent Danielle Chariat, députée PDC de Port-en-Druy, qui monte à la tribune pour la prochaine question orale.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, le gouvernement a annoncé la semaine dernière le report de la fermeture des tunnels au mois de novembre. La foire du Jura a pu se réjouir d'une telle décision. En effet, les ajoulots sont nombreux à venir profiter des bonnes affaires de cette traditionnelle manifestation et le fait de devoir franchir le col des Rangiers aurait pu freiner leur ardeur. Toutefois, cette fermeture n'est que reportée d'un mois. Sachant qu'au mois de novembre, il gèlera certainement la nuit. Il y aura sûrement du brouillard. Peut-être même qu'il neigera. De toute façon, ce sera une période où les frimas de l'hiver arrivent à grands pas. Est-ce réellement la bonne idée? Le gouvernement est-il conscient des dangers supplémentaires liés à la saison de cette fermeture et est-il prêt à encore une fois repousser les travaux prévus à une période où la météo sera plus propice? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre David Herré.
Voilà, Madame la députée, alors peut-être pour répondre directement à votre question, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour que ce report de fermeture ne crée pas de problème de sécurité routière, puisque le service d'entretien au niveau du service des infrastructures, la section entretien, a donc mis en place une permanence 24 heures sur 24 en cas de conditions météorologiques difficiles pour que la route des Rangiers soit donc préparé en permanence pour une conduite en toute sécurité. Il n'y aura donc pas de période, par exemple, nocturne où il n'y a pas de chasse-neige, dans le cas où il y aurait de la neige, mais nous ne souhaitons pas ça. Et puis j'aimerais juste revenir sur finalement la cause de ce report, puisqu'il y a une année, ces travaux ont été planifiés en concertation avec les activités économiques que sont la Foire du Jura, ou qu'est la Foire du Jura. Et entre-temps, la Foire du Jura donc, a changé sa date d'exposition. L'information n'a pas été transmise au service des infrastructures, d'où ce petit problème actuellement que nous avons réglé de façon pragmatique et à satisfaction de l'économie locale et, comme vous l'avez dit, des ajoulots qui viennent très volontiers également à la Foire du Jura. Donc nous espérons, avec toutes ces mesures, que les fermetures permettront de réaliser les travaux comme ils doivent l'être, et que le flux routier par les Rangiers sera possible en toute sécurité. Nous avons pris toutes les dispositions pour y arriver.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Satisfaite. Madame la députée Danielle Chariat est satisfaite. Pour la 10e question, j'invite à la tribune Monsieur le député Vincent Hénin.
Vincent Hénin, député PCSI.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres. Début septembre, les autorités cantonales apportaient une réponse à la pétition portée par les syndicats dans le dossier toujours en cours de la soumission des lignes de bus dans notre canton. En lisant ce texte, nous constatons que la volonté de ce Parlement n'est pas respectée. Le 31 janvier 2018, nous avons accepté une motion de notre collègue Pierre-Luigi Fedele qui exigeait que dans les conditions d'adjudication figure l'obligation de négocier une convention collective de travail. Pour faire court, dans la réponse au syndicat, il est indiqué que la mise au concours ne contiendra pas cette condition. En effet, cette exigence serait non conforme au droit supérieur. Le gouvernement donne ainsi suite aux remarques de l'OFT, Office fédéral des transports, pour qui l'intérêt va bien entendu dans le sens de diminuer le subventionnement des prestations, avec comme risque évident que cette opération se fasse sur le dos des employés. Dès lors, le gouvernement peut-il nous renseigner si son intention est de surseoir à la volonté exprimée par le Parlement en invoquant, cela devient une habitude, le droit supérieur? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. C'est bon, c'est bon. Monsieur le ministre David Herré.
Monsieur le député, votre question est un petit peu difficile à répondre puisque vous vous adressez à un gouvernement cantonal pour une thématique de compétence fédérale. Je vous rappelle que l'adjudication finale du marché des transports publics par bus sera faite par l'Office fédéral des transports, comme le prévoit la législation fédérale. Donc votre question devrait plutôt être posée au Conseil fédéral plutôt qu'au gouvernement jurassien. Et ceci, nous l'avions déjà exprimé à plusieurs reprises. Lors du dépôt de la motion que vous avez mentionnée, nous avions également apporté des garanties pour que les emplois finalement qui seront offerts par le vainqueur de l'appel d'offres soient donc adéquats et respectent les conditions de travail telles que nous les imaginons. Après, nous avions également mentionné que la motion en tant que telle n'était pas donc matériellement applicable puisque le droit fédéral ne prévoyait pas cette condition, et c'est ce qu'a confirmé l'Office fédéral des transports. Et nous en avons fait part aux pétitionnaires en toute transparence. Nous estimions qu'il était correct de notre part de le faire en toute transparence. Et je vous rappelle encore une fois que si toute cette situation est actuellement une thématique que nous discutons, c'est aussi parce qu'une entreprise de transport public a détourné 205 millions de subventions au détriment des adjudicataires que sont les cantons, les communes, la Confédération. Et si cette entreprise avait été correcte et n'avait pas détourné ces 205 millions, eh bien, nous n'aurions pas cette situation et nous aurions une actualité paisible au niveau des transports publics, avec également des employés de ces entreprises qui seraient rassurés et qui n'auraient pas d'inquiétude face à cet appel d'offres que nous avons lancé dans l'intérêt des citoyens et des contribuables jurassiens.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Vincent Hénin n'est pas satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune monsieur le député Yves Gigon.
Yves Gigon, député indépendant de Courgenay.
Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, chers collègues, la récolte de signatures pour l'initiative Jura à côté de la plaque ou Jura plaque trop cher va bon train et nous vous en remercions. Le comité d'initiative et l'UDC encouragent donc la population jurassienne à continuer à signer et à faire signer cette initiative. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre à la foire du Jura au stand du TCS pour les signer. Cependant, nous avons appris que des employés de l'État se sont vus interdire, à tout le moins fortement déconseillés, par leurs supérieurs hiérarchiques, voire chefs de département, de signer et de militer pour cette initiative. Ceci se va bien évidemment à l'encontre des droits fondamentaux de tout citoyen. Dès lors, est-ce que le gouvernement peut nous rassurer et assurer que les employés de l'État ont la liberté totale de signer et de militer pour cette initiative, comme toutes les autres d'ailleurs? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herré.
Monsieur le député, donc nous avons pris acte de la récolte des signatures qui a lieu actuellement. Nous observons effectivement qu'il semblerait qu'il y a un bon engouement. Et par rapport à cela, vous semblez dire que les employés de l'État auraient eu l'interdiction de signer une initiative. Je m'inscris en faux par rapport à ces affirmations, en tout cas par rapport à ma connaissance de la situation dans mon département, ce n'a pas été le cas. Et il est vrai que nous avons thématisé le fait de certains arguments des initiants par rapport à la situation des investissements et des coûts qui sont engagés par l'État pour notamment l'entretien des routes, la sécurité routière. Et nous avons donc simplement informé les collaborateurs de la situation telle que nous la voyons. Et il n'y a jamais été question de leur dire qu'ils avaient interdiction de signer ou qu'ils avaient obligation de signer une initiative. Ceci serait d'ailleurs contraire à la Constitution et certainement à nos lois. Et donc chacun est libre de signer cette initiative comme il le semble, comme il juge pertinent de le faire ou pas. Et une fois que cette initiative sera déposée, comme je l'ai dit, eh bien, elle sera traitée selon la procédure, avec une validité matérielle, bien évidemment, ensuite un traitement sur le fond et une éventuelle acceptation ou opposition à un code projet ou rejet de l'initiative qui sera proposée au peuple. Ceci donc sera bien évidemment fait, le cas échéant, lorsque l'initiative sera déposée et selon les procédures habituelles.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon est partiellement satisfait. Pour la question orale suivante, je donne la parole à monsieur le député Frédéric Lovy.
Frédéric Lovy, député PCSI de Boïcourt, qui monte à présent à la tribune.
Madame la présidente, madame et messieurs les ministres, chers collègues, à la suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de l'échange automatique de renseignements, le service des contributions a augmenté son effectif en personnel pour traiter les dénonciations spontanées, spécialement les dénonciations fiscales de biens hors du pays. Nous avons pu lire dans la presse que jusqu'au 30 septembre 2018, le canton du Jura avait enregistré 1358 dénonciations. Si le montant de ces rentrées financières n'est pas encore connu, peut-être aurons-nous des informations ce jour, il n'en demeure pas moins que cet effet préventif de dénonciation spontanée a des répercussions sur la situation financière des personnes possédant un bien à l'étranger. Elles se voient d'une part imposées dans leur pays et après leur autodénonciation dans notre canton. Au niveau suisse, certains contribuables exaspérés par la forme, aussi bien que par le montant à rembourser, auraient décidé de rentrer dans leur pays. Dès lors, le gouvernement peut-il nous dire quelle est la situation dans le canton et quelle marge de manœuvre octroie-t-il à ses contribuables jurassiens ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Charles Juillard.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, en effet, depuis le 1er janvier 2017, à la demande des États européens, il ne faut pas l'oublier, a été introduit en Suisse l'échange automatique d'informations, ce qui veut dire que les fiscs étrangers vont recevoir spontanément des informations des autorités suisses concernant des comptes qui seraient détenus en Suisse par des étrangers, mais également la Suisse a reçu toute une série d'informations concernant des comptes détenus par des ressortissants suisses ou des personnes domiciliées en Suisse par rapport à des biens ou des comptes qu'ils auraient à l'étranger. Pour tenir compte de cet élément, la Confédération a admis un délai de grâce pour permettre aux personnes qui auraient, par mégarde, oublié d'annoncer quelques biens qu'ils avaient à l'étranger, quand bien même ils doivent les annoncer, quand bien même non, ils ne sont pas taxés deux fois. Hein. S'ils sont taxés notamment pour leurs biens immobiliers dans leur pays, on ne les taxe pas une nouvelle fois chez nous par rapport à ce bien. Ça a une influence sur le taux de l'impôt, mais ça n'a pas d'influence sur le résultat final. Si on veut, on ne prend pas le fait qu'ils aient une maison à l'étranger. Ils ne sont pas taxés pour ça en Suisse, s'ils sont taxés à l'étranger. Hein. Il n'y a donc pas de double imposition sur cette question-là. Et puis, c'est vrai que durant ce laps de temps, il y a eu une grogne. Le service des contributions a rencontré deux fois les associations de ces personnes étrangères domiciliées en Suisse, et en particulier dans le Jura, pour leur expliquer comment allait procéder le canton du Jura par rapport à cela. En se souvenant aussi que nous avons introduit une amnistie fiscale unique en Suisse, par rapport à cela, et auquel cas tout contribuable avait l'occasion rêvée de pouvoir régulariser sa situation avec le fisc et d'annoncer aussi ses biens qu'il avait oublié d'annoncer, sachant que de toute façon cet échange automatique, on en parlait déjà à ce moment-là, on ne connaissait pas exactement encore la date de l'entrée en vigueur. Donc nous avons maintenant à traiter 1358, peut-être un tout petit peu plus, parce qu'il en est encore arrivé quelques-uns juste après, dénonciations spontanées. Cela, eh bien, nous utilisons la marge de manœuvre qui a été la même que celle que nous avons appliquée dans le cadre de l'amnistie fiscale pour les citoyens établis dans le canton, c'est-à-dire que les cas bagatelles, on ne s'en occupe pas, ou alors c'est traité rapidement, sans grande recherche. C'est-à-dire que si on apprend sur dénonciation spontanée que le contribuable nous annonce un compte jusqu'à 10 000 euros, eh bien, on traite, on prend, et puis ça fait une petite facture, ce n'est pas très important. Et s'il a un bien immobilier, on prend jusqu'à 100 000 euros. Au-delà, on fait une procédure normale, mais si c'est une dénonciation spontanée, il n'y a pas d'amende qui est mise en place. Par contre, ça c'est le premier volet. Donc on va traiter ces éléments-là en parfaite égalité de traitement avec les autres citoyens qui ont bénéficié de l'amnistie fiscale, respectivement. Pour ceux qui n'ont pas profité de ce délai de grâce, entre guillemets, eh bien nous allons les traiter comme les autres citoyens, à savoir que lorsque nous recevrons, la Suisse a reçu les informations, elle ne les a pas encore dispatchées dans les cantons, nous devrons analyser toutes les informations que nous allons recevoir. Et c'est vrai que nous avions tablé sur des rentrées supplémentaires d'environ 2 millions de francs. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore évidemment là, puisque nous avons traité les cas les plus simples qui ont rapporté en moyenne, pour l'instant, peu d'argent par cas, mais nous sommes convaincus que les gros cas, entre guillemets, sont encore à venir. Donc nous avons mis sur le même pied d'égalité les citoyens ressortissants étrangers par rapport aux citoyens suisses, et il n'y a pas de double imposition entre les biens imposés en Suisse et les biens qu'ils seraient implantés dans un autre pays.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Frédéric Lovy est satisfait. Pour la question orale suivante, je donne la parole à monsieur le député Didier Spies.
Didier Spies, député UDC de Kourou.
Madame la Présidente, chers collègues, madame et messieurs les ministres, à Saint-Ursanne, la première étape des travaux de réfection de la vieille ville, qui ont débuté en juillet 2016, arrive à son terme. Ces travaux, les fouilles archéologiques, mais aussi l'inondation en janvier 2018, ont bien gêné un grand nombre d'habitants et commerçants de Saint-Ursanne, ainsi que de nombreux touristes. Oui, quelques 150 000 personnes se baladent sur les pavés de la vieille ville durant une année. Des trouvailles archéologiques est également espérées, d'où ma question au gouvernement. Quel est le bilan du gouvernement après la première étape concernant les travaux de réfection de la vieille ville du principal site touristique de notre canton? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Monsieur le député, concernant la gêne, alors je ne peux pas m'exprimer au nom des citoyens de Saint-Ursanne. Par contre, c'est vrai que j'ai envie de dire, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Pour avoir une plus belle ville après, il faut peut-être souffrir momentanément. Donc j'imagine que ça fait partie de la situation. Par contre, je peux vous donner quelques éléments, puisque l'archéologue cantonal a eu une séance pas plus tard que la semaine dernière, au niveau des enjeux et des délais surtout. Déjà vous dire que nous sommes, puisque vous parlez de bilan, nous sommes très contents à l'heure actuelle du bilan au niveau archéologie, puisque vous l'avez suivi, et je profite de cette question orale imprévue pour redire peut-être les choses qui ont été mises à jour, ce qui est extrêmement intéressant. Donc des éléments de muraille qui nous ont permis d'en voir un peu plus, de savoir un peu plus de choses au niveau du plan médiéval des fortifications. Donc on a même remis en question certaines choses qui existaient. On a retrouvé énormément d'objets en cuir qui étaient étonnamment très bien conservés. Et vous le savez, vous avez peut-être même eu l'occasion d'aller les voir sur place. Les différentes tombes ont pu être mises à jour et qui ont permis donc de dater les étapes de la construction de la collégiale. Donc beaucoup d'informations au niveau historique, mais j'ai envie de dire, et c'est surtout là le but de votre question j'imagine, au niveau touristique pour Saint-Ursanne bien sûr, pour les années à venir et pour l'ensemble du canton du Jura. Le défi maintenant, lequel est-il? Eh bien c'est de pouvoir travailler en bonne collaboration entre l'archéologie et l'entreprise générale pour que les travaux puissent se terminer en 2020, puisque vous le savez, c'est le 1400e de la ville. Donc pour pouvoir faire ces festivités, ben, il faut être prêt à temps. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un cas un peu particulier où on est pris par le délai, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ça veut dire qu'il faut vraiment se coordonner. Donc au niveau de l'archéologie, c'est-à-dire qu'il faut essayer de mettre à jour ce qui est essentiel et où s'arrêter, c'est toujours un peu la limite, dans se disant qu'on a des délais à respecter. Voilà. Donc voilà pour le défi. Peut-être pour terminer, quand même vous donner un élément d'information, quand vous parlez de bilan, on pense à l'aspect financier. C'est un dossier culturel puisque ça touche, je le disais, l'archéologie, mais également le patrimoine historique. Donc peut-être vous donner quelques chiffres actuels. La première phase, la République et Canton du Jura avaient octroyé 300 000 francs. Et ce qui a permis, et ce qui est extrêmement important pour nous, ce qui a permis, puisque c'est un site d'importance nationale, de débloquer 680 000 francs au niveau fédéral. Et tout récemment encore, on a pu obtenir une petite rallonge au niveau des fontaines, puisque avec ce même effet de levier, 16 000 francs pour la République et canton du Jura ont pu amener encore 39 000 francs complémentaires de la Confédération. Voilà. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Didier Spies est satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune monsieur le député Vincent Eichmann.
Vincent Eichmann, député PDC de Vic.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, pour les habitants de Kourou et les milliers d'usagers de la route au quotidien, la traversée de cette localité est devenue plus qu'un parcours du combattant. Il faut carrément parler non pas de Via Sicura, mais de Via Horribilis. En effet, depuis cet été, on ne compte plus les trous en formation accompagnés d'entraves à la circulation occasionnant des embouteillages dès la sortie est de l'Élément aux heures de pointe. Renseignements pris auprès du service des infrastructures, les ouvertures de chantier font l'objet d'une autorisation après examen et doivent répondre à des critères précis de sécurité. Or, la planification et la signalisation de ces travaux posent de sérieux problèmes, en particulier lorsqu'on ferme une voie de circulation à la croisée Courcelon-Kourou le vendredi après-midi, avec un simple signal triangulaire et un feu de chantier à peine visible sur un tronçon limité à 80 km/h, situation occasionnant de tels risques qu'elle a amené la pose de feux de circulation en urgence le samedi matin. Au-delà de l'anecdote exemplaire, le revêtement de cette traversée est catastrophique et se dégrade mois après mois en raison des quelques 12 000 passages quotidiens, et la route est devenue tellement chaotique qu'elle représente un véritable danger pour tous les usagers. Aussi, je demande au gouvernement quelles mesures urgentes il peut prendre pour remédier rapidement à cette situation. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herré.
Voilà, monsieur le député, effectivement, cette situation, vous l'avez dit, vous avez eu un contact avec le service des infrastructures. Cette situation est connue du gouvernement, est connue du service des infrastructures. Et nous sommes très attentifs à la situation, sachant que c'est un tronçon où il y a 12 000 véhicules par jour qui transitent. Donc c'est à peu près, c'est énorme comme chiffre. Hein. Si on compare au tunnel sous les rangées avec 17 000, on est à Kourou pas loin des deux tiers du trafic de l'A16 sous les rangées. Par rapport à cela, effectivement, il n'y a pas d'action urgente prévue à court terme. Par contre, il y a des actions, je dirais à court-moyen terme prévues, qui sont d'ailleurs, qui font l'objet de discussions intenses et intéressantes entre la commune de Kourou et les deux services des infrastructures et du développement territorial. Et actuellement, la situation est la suivante, c'est que le projet de traversée, de mise en œuvre de la traversée de Kourou, tel que nous l'avions d'ailleurs prévu à la planification financière des investissements, il est à bout touchant. Nous espérons que la commune, respectivement le canton qui collabore avec la commune, pourra déposer le projet, un dépôt public, fin d'année, mais probablement début 2019. Ensuite, la procédure, nous espérons, ne subira pas trop d'opposition. Opposition, le cas échéant, que nous traiterons de la meilleure des manières. Et nous espérons pouvoir avoir des travaux qui démarrent durant l'année 2019. Donc voilà la réponse à vos inquiétudes qui sont donc partagées par le gouvernement jurassien.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Vincent Eichmann est partiellement satisfait. Pour la 15e question orale, j'invite à la tribune monsieur le député Nicolas Maître.
Nicolas Maître, député PS d'Épauvillers.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les Ministres. Le Matin revenait dans son édition du jeudi 18 octobre sur la chute malheureuse avait été du ministre David Herré. Le journal en ligne en profitait pour rappeler sous forme de clin d'œil que ce genre de mésaventure était propre à bon nombre d'hommes politiques. Philippe Receveur, Uli Maurer, Frédéric Borloo et Mathias Reinhardt avaient également mordu la poussière dans les mêmes circonstances. Nous souhaitons bien évidemment un prompt rétablissement à notre ministre. Mais au-delà de ce fait divers relaté dans la presse électronique, on peut s'interroger quant au deuxième sujet de l'article qui traitait de l'indisponibilité momentanée du ministre de l'Environnement à présenter à la presse, la semaine dernière, le projet de révision du plan directeur cantonal. Contacté également à ce sujet par Le Matin, le député Jean-Daniel Chan, PCSI, président de l'association Libre Vent, répondait malicieusement aux journalistes par une boutade interrogative. La trouille du plan sectoriel ? Par contre, lorsque le même journaliste l'interroge justement concernant le quid du plan directeur sur l'énergie éolienne, celui-ci croit savoir que, je cite, « notre ministre de tutelle est contre l'implantation d'éoliennes dans les villages qui ont dit non ». D'où ma première interrogation. Les communes devaient-elles alors simplement s'opposer à la planification sectorielle d'implantation d'éoliennes pour prétendre ne jamais en avoir sur leur territoire ? Comment notre collègue Chan peut-il prétendre prendre un raccourci aussi rapide dans la procédure actuelle et non aboutie ? Est-ce simplement une idée farfelue de sa part ou une information que d'autres députés n'auraient pas eue ? Cas échéant, comment peut-il sous-entendre de pareilles allégations ? L'article du matin ne fait en tout cas pas état de pareilles divagations de notre ministre erré après sa chute à VTT. À ce stade, dans le traitement d'un dossier aussi brûlant, il serait navrant et surprenant que l'on soit en présence d'une fuite d'informations confidentielles. D'où ma question, le gouvernement peut-il confirmer n'avoir jamais communiqué à ce sujet et laisser filtrer quelconque information ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre, David Herré.
Monsieur le député, tout d'abord, peut-être vous rappeler que le porte-parole du gouvernement est le chef du service de l'information et de la communication. C'est donc à cette personne que le journaliste aurait dû s'adresser pour avoir des informations, soit sur la situation sanitaire du ministre concerné, ou soit sur les éventuelles raisons d'annulation ou de report de certaines conférences de presse qui ont dû être décisions qui ont dû être prises par la force des choses. Et pour le reste, concernant les affirmations de vos collègues députés, je vous renvoie auprès de lui, puisque cela n'engage que lui. Et ce sont des propos que j'ai fortement regrettés, et je lui en ai fait part.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Nicolas Maître est satisfait. Pour la dernière question orale, j'invite à la tribune monsieur le député Dominique Thiévent.
Dominique Thiévent, député PDC de Courtedou, qui monte à la tribune pour la dernière question orale.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, fin août 2018, la pseudo-société Meyer Info publiait sur les sites de recherche d'emploi une offre pour un poste d'assistant-assistante en ressources humaines avec, à compétences égales, une rémunération différente selon le sexe du candidat. 80 000 francs pour un homme, 64 000 francs pour une femme. Cette société fictive, créée de toutes pièces par le syndicat UNIA, n'est qu'une véritable supercherie. Le syndicat a voulu thématiser l'inégalité salariale dans le but de susciter l'indignation. L'annonce provocatrice était fausse, a confirmé le syndicat UNIA dans un communiqué publié après plusieurs jours de silence. La fin justifie-t-elle les moyens ? Comment un grand syndicat tel que UNIA peut-il produire de fausses annonces sur la base d'éléments de preuves fabriqués de toutes pièces et non pas aux moyens d'arguments crédibles pour faire passer un message ? Une chose est sûre, celles et ceux qui sont convaincus que l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes n'existe pas se voient confortés dans leur certitude, puisqu'un grand syndicat comme UNIA a besoin de recourir à des pratiques déloyales et inacceptables pour prouver que son discours est basé sur des faits. Après le scandale de la caisse de chômage vaudoise, cette nouvelle offre n'avantage certainement pas le syndicat. En termes d'image et de crédibilité, on peut faire mieux. Dès lors, et compte tenu que le syndicat UNIA est un acteur écouté des commissions tripartites et paritaires en partenariat avec l'État jurassien, le gouvernement ne pense-t-il pas qu'il serait opportun de condamner cette pratique et de recadrer quelque peu ce partenaire pour cette annonce discriminatoire, provocatrice, trompeuse et incitant à la violence ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre, Jacques Guerver.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le député, l'objectif est louable, mais évidemment la méthode est discutable. L'objectif est louable, Monsieur le député, car les inégalités salariales dont sont victimes les femmes sont
injustifiable. Et il est désormais temps d'ouvrir les yeux, de l'admettre et d'y mettre fin. L'État a fait ce qu'il devait faire pour rectifier ce qui devait l'être avec l'introduction du système d'évaluation des fonctions ABACABA. Il espère que les entreprises concernées lui emboîteront le pas. Pas avec de vaines promesses, mais avec des actes concrets, sans équivoque. Ces inégalités sont connues depuis longtemps. Pourtant, vous l'avez mentionné vous-même, elles perdurent. Qu'il y ait de l'impatience, je le comprends. Je peux même comprendre parfois la provocation. Elle est parfois nécessaire pour stimuler le débat et faire évoluer les consciences. Mais la méthode choisie par UNIA est discutable. Le gouvernement, monsieur le député, n'y souscrit pas. Car la tromperie induite par cette fausse offre d'emploi est tout simplement inacceptable. D'autant plus dans le contexte actuel, imprégné de méfiance avec son lot de fausses nouvelles, de fake news dont on sait qu'elles menacent, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, le débat démocratique, comme semble le montrer le ressenti de la majorité des Suisses selon un dernier sondage. Alors UNIA a-t-il choisi la bonne méthode? Très clairement, le gouvernement ne le pense pas, car la cause de l'égalité salariale est bien trop importante pour mériter des actions aussi maladroites. Toutefois, ces actions ne remettent pas en cause, monsieur le député, le partenariat avec UNIA Transjurane, qu'il faut bien distinguer de son organisation nationale. C'est un partenaire constructif, basé sur une confiance réciproque qui s'est construit tout au long des années, qui permet aujourd'hui d'assurer le bon fonctionnement des commissions tripartites et la qualité des relations avec les commissions paritaires. En conclusion, monsieur le député, oui, la fausse annonce d'UNIA est plus que discutable, mais le gouvernement ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain en recadrant UNIA Transjurane. Ce serait se tromper de cible.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Dominique Thiévan est satisfait. L'heure des questions orales est écoulée. Toutes les personnes qui s'étaient annoncées ont pu poser leurs questions. Nous pouvons donc passer au point 4, élection d'un membre éventuellement d'un remplaçant de la commission de gestion et des finances.
Voilà, ça n'est fini pour cette traditionnelle heure des questions orales ici au Parlement à Delémont. Elles seront toutes à retrouver en podcast sur notre site internet rfj.ch dans le courant de la journée. Belle journée à tous.